France Culture.
J'estime que l'incision doit se faire d'un seul coup de bistouri malgré la sinuosité du dessin, à la manière du pouce qui indique un trait de modelage. Je dois dire que c'est un des gestes les plus élégants que je connaisse en chirurgie. Sa vue impressionne toujours les assistants. Penser que c'est un visage dans lequel on taille avec cette désinvolture sans nécessité de santé et que cette élégante incision va décider de tout est assez émotionnant.
Suzanne Noël, chirurgienne esthétique et sociale. Un documentaire de Romain de Becdelièvre et Gaëlle Gillon.
Le chirurgien sent le petit frisson d'émoi qui passe dans l'assistance. Et pour ma part, à ce moment précis, je rends grâce à celui ou celle qui, allongée devant moi, avec la plus tranquille confiance, remet entre mes mains la destinée de sa beauté.
Suzanne Noël, la chirurgie esthétique, son rôle social, 1926. Qui est Suzanne Noël? Si vous posez la question à vos proches ou au hasard dans la rue, personne ou presque ne saura vous répondre. Son nom et son travail ont très largement été emportés par l'oubli. Née au début de la Belle Époque, Suzanne Noël a pratiqué la médecine, plus précisément la chirurgie, et plus précisément encore celle que l'on qualifie d'esthétique. L'art de retoucher les visages et les corps, de retendre des peaux, de recoller des oreilles, d'effacer des rides ou des cicatrices. Suzanne Noël fut la praticienne et la pionnière de tous ces gestes qui modifient les apparences et ralentissent le passage du temps sur celle-ci. Le temps a pourtant été injuste avec Suzanne Noël. Il l'a reléguée dans un double oubli, celui qui frappe la plupart des femmes scientifiques et celui qui minore cette pratique de la chirurgie, jugée comme superficielle ou accessoire. François Denoncin, petit-neveu de Suzanne Noël, à l'école de médecine à Paris.
Pour situer le contexte un petit peu pour l'accès à la médecine pour les femmes, il y a un ouvrage, La femme médecin, en 1875, d'un certain Richelot qu'on oubliera rapidement. Mais voilà un peu des extraits du contexte. On parle de plus en plus des femmes qui, dans l'intention d'exercer l'art de guérir, se livrent à l'étude des sciences médicales en Amérique, en Angleterre, en Russie, en Suisse, en France même, et obtiennent le brevet de pharmacien ou le diplôme de docteur en médecine. Aucune législation, aucune puissance morale n'interviennent pour arrêter cette déplorable tendance. Leur accorder des grades dans nos écoles, leur concéder des titres professionnels complets, c'est de la part de l'administration supérieure un acte de faiblesse ou de négligence. L'étude et la pratique de la médecine exigent des qualités viriles. La femme médecin est un être humain qui a dévié. En général, les épreuves de ces dames sont d'une grande faiblesse et ne révèlent ni une forte intelligence, ni une instruction solide. Voilà, tout est dit.
Sur une photo du livre d'or de l'internat des hôpitaux de Paris, prise dans les années 1910, 21 internes prennent la pose, comme sur une photo de classe. Sur le noir et blanc de l'image, on voit des blouses, des vestes sombres, des cigarettes, des airs sérieux, des barbes, des moustaches, encore des barbes et encore des moustaches. Une silhouette détonne au premier rang, la troisième en partant de la droite. Elle a le visage glabre et elle porte un chapeau. C'est Suzanne Perta, la seule femme de la photo et de l'internat de médecine. On a dit de Suzanne Noël qu'elle réparait les vivants, qu'elle opérait à main nue, qu'elle a rendu des visages à des gueules qu'on disait cassées. Comme toutes les biographies, celle de la chirurgienne est pleine d'ombre, de lumière et de mythes. Suzanne Noël a porté trois noms différents. Elle a relifté le bas du visage de la star de l'époque, Sarah Bernhardt. Dans les premières années du XXe siècle, elle a passé le baccalauréat, l'internat, l'externat et une thèse en médecine. Elle a exercé la chirurgie en cabinet, puis à l'hôpital. Elle a milité pour le droit de vote des femmes. Elle a traversé le chaos, le patriarcat, deux guerres mondiales et des tragédies personnelles foudroyantes. Pourquoi, à la fois son histoire et sa personne, ne sont pas plus connues en France ?
Alors ça, je crois que c'est le lot malheureusement d'énormément de femmes qui, quel que soit ce qu'elles ont réalisé, sont tombées très vite dans l'oubli. Où, c'est un peu une apalissade de parler d'une société qui a été très longtemps et qui reste encore patriarcale et où les femmes sont un peu minorées, hein, et dans les différents domaines, même scientifiques, même médicaux, on a des exemples concernant Suzanne Noël où elle a été clairement victime de l'effet Matilda et d'être minorée, quoi. Voilà.
C'est quoi l'effet Matilda ?
Alors l'effet Matilda, c'est effectivement quand des confrères hommes, gomment, ignorent, minimisent, que ce soit de son vivant ou que ce soit des fois encore assez récemment, dans les productions, les articles, leurs écrits, ignorent la bibliographie de Suzanne Noël, par exemple, ses publications, et résument son apport scientifique à uniquement du mini-lifting, par exemple.
Comment vous faites le lien, vous, entre le féminisme de Suzanne Noël et sa pratique de la chirurgie esthétique ?
C'est le rôle social de la chirurgie esthétique qu'elle a vu à travers le prisme de comment faire évoluer la condition féminine.
Thérèse Awada, chirurgienne esthétique.
Elle dit une femme doit pouvoir travailler de tout temps, pendant toute sa vie si elle le souhaite. Et on constate que c'est de plus en plus dur de trouver du travail quand notre apparence se dégrade, ce qui est toujours vrai aujourd'hui en vérité. En fait, c'est complètement vrai. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que cette intuition qu'elle avait dans les années 20, aujourd'hui, c'est scientifiquement complètement documenté dans les sciences sociales, en neurobiologie, etc. Il y a un rapport entre l'apparence et l'insertion sociale, la réussite professionnelle. Donc c'était vrai, c'était vraiment très intuitif.
Et elle le dit à une époque où les femmes ne peuvent pas travailler sans l'aval de leur mari, où elles ne peuvent pas ouvrir de compte en banque aussi.
Elle parle de l'autonomie féminine comme un sujet central de sa pratique. C'est-à-dire qu'elle lie chirurgie esthétique et émancipation.
Alors en fait, elle est sortie de l'oubli progressivement à compter de 2014-2018, au moment où il y a eu toute la campagne de commémoration du centenaire de 14-18. Et effectivement, ici ou là, souvent sous l'impulsion des clubs suroptimistes, dont elle est une des fondatrices, on rappelait qu'elle avait été notamment, pour ces périodes de commémoration 14-18, chirurgienne de la Grande Guerre. C'est progressivement ce qui l'a fait sortir de l'oubli. Et petit à petit, il y a eu un certain nombre d'articles dans des magazines, des personnes qui s'y sont intéressées. Une bande dessinée en 2021 et 2022 avec Clément Oubrerie et Leïla Slimani, donc à main nue, etc. Enfin, et aujourd'hui, beaucoup plus s'intéresse et elle commence à sortir nettement de l'oubli, bien que je pense que la très grande majorité de nos concitoyens ignorent qui est Suzanne Noël.
Suzanne Gros naît en 1878 à Lens, dans l'Aisne, d'une famille de selliers et de carrossiers. Elle est la quatrième d'une fratrie de quatre enfants, tous morts en bas âge, avant sa naissance. Suzanne a 6 ans, lorsque son père, Victor Antoine Gros, décède de la tuberculose. Esther Thomas, la mère devenue veuve, vit alors de la rente de différents loyers. Elle inscrit sa fille dans une institution scolaire catholique, en cette fin de 19e siècle, où la scolarisation des jeunes filles commence à s'instituer. Cette éducation religieuse va marquer durablement la jeune femme, qui, des années plus tard, s'engagera dans le tiers-ordre des Dominicains. La famille cherche un beau mariage pour Suzanne. Un candidat tout trouvé apparaît, Henri Perta, un jeune et prometteur docteur en médecine, de 9 ans plus âgé qu'elle. L'histoire de Suzanne commence, comme dans un roman du 19e siècle, par un mariage bourgeois, et une arrivée promise à Paris. Le 17 janvier 1897, Suzanne Gros devient Suzanne Perta. Elle épouse Henri, à 19 ans, dans l'église Saint-Martin de Lens.
Et cette église, d'ailleurs, quand vous regardez le haut du fronton, il y a une très grosse rosace, mais vraiment c'est comme le nez au milieu du visage, qui représente Saint-Martin qui donne la moitié de son manteau à un mendiant. Saint-Martin était officier romain avant qu'il devienne évêque de Tours. Il ne pouvait donner que la moitié, parce que l'autre moitié appartenait à Rome, en tant qu'officier romain. Quand on voit que tout au long de sa vie, elle a été au service des autres, hein, que ce soit les blessés de 14-18, que ce soit les réfugiés des 14-18, que ce soit les ouvrières, les employés, enfin les personnes dans le besoin, même sur le plan de sa pratique chirurgicale, que ce soit les réfugiés ou les blessés ou les victimes des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi trace effectivement qu'elle, pour les personnes qui revenaient des camps, qui souhaitaient faire disparaître leurs tatouages, elle le faisait gratuitement, des choses comme ça.
Tout aurait pu commencer comme dans un roman du 19e siècle. Suzanne Perta s'installe comme femme au foyer dans le chic 17e arrondissement de Paris, praticienne de la couture et amatrice d'art. Elle aurait pu s'occuper du foyer, pratiquer la couture et aimer l'art. Et cela aurait été tout. Mais non, Suzanne Perta veut faire des études, et pas n'importe lesquelles. elle affiche une prédilection pour la médecine.
Henri Bertha sera très très soutenant, très encourageant pour Suzanne Noël par rapport à ses aspirations. Donc une fois le mariage, ils viennent s'installer à Paris, au 107 avenue de Villiers, donc à l'époque juste devant la place Pereire, aujourd'hui place du Maréchal Juin. Et Henri Bertha, donc dermatologue, ouvre son cabinet. Au dernier étage de cet immeuble, ils entendent les voix des enfants sur la place Pereire, des choses comme ça qu'elle décrit. Et donc elle aide son mari, à la fois comme femme de maison et à la fois pour l'aider sur son cabinet médical. Et c'est comme ça que petit à petit vient pour elle l'ambition, le projet de devenir médecin. Et pour ça, à l'époque, il fallait l'autorisation de son mari. Et c'est là qu'Henri Bertha a été vraiment encourageant et soutenant, puisqu'il a, jusqu'à ses études de médecine, il a tout fait pour que elle puisse être autorisée. Et donc elle a préparé son baccalauréat qu'elle obtient le 11 novembre 1903 en philosophie-lettres. Et puis il faut qu'elle poursuive donc vers la faculté de médecine. Mais il faut que pour cela, elle puisse préparer, comme tous les étudiants à l'époque pour la faculté de médecine, pour l'entrée, le certificat d'études en sciences physiques, chimiques et naturelles. C'est le sésame pour la faculté de médecine. Et malheureusement, elle trouve pas la possibilité d'entrer à la faculté de médecine de Paris. Il n'était pas évident à l'époque pour une femme de... C'était un milieu essentiellement d'hommes, exclusivement, on pourrait dire, d'hommes. Donc de novembre 1904 à juin 1905, elle est à l'université d'Alger, de médecine et de pharmacie d'Alger, et elle obtient en juin son fameux certificat qui va lui permettre d'accéder à la faculté de médecine de Paris à la rentrée universitaire 1905.
Les expériences médicales s'enchaînent pour l'étudiante en médecine Suzanne Bertha. En 1908, elle effectue son stage d'externat à l'hôpital Bichat. En 1909, elle passe par Saint-Antoine. Et en 1910, par l'hôpital Bretonneau. En 1911, elle intègre l'équipe du professeur Louis Brock à l'hôpital Saint-Louis, la pointe avancée des recherches en dermatologie. En 1913, on la rencontre à la Pitié-Salpêtrière, au service d'obstétrique, où elle fait son stage d'internat, avant de revenir en 1914 chez Louis Brock, pointe avancée de la dermatologie. Entre ses études assidues et ses stages de médecine qu'on imagine intenses, Suzanne Bertha, bien qu'elle soit mariée, a trouvé le temps de rencontrer l'amour. C'est à la fac de médecine qu'elle rencontre André Noël.
Oui, alors ils sont donc de la même promotion, 1905, enfin entrée 1905, et notamment, ils se sont fréquentés certainement progressivement, mais en tout cas, en septembre 1908, naît Jacqueline. Et Jacqueline est effectivement la fille d'André. Le couple, ça faisait 11-12 ans qu'elle était mariée avec Henri Bertha, elle n'avait pas d'enfant. Ça a été une union faite de beaucoup de respect, de beaucoup de soutien. Mais elle tombe amoureuse d'un camarade de promotion, André Noël.
Qui est plus jeune qu'elle.
Oui, puisque André doit avoir... il a 7 ans d'écart, il est né en 1885. Il y a 13 ans d'écart entre André et Henri.
Et donc, ça n'a pas fait scandale qu'elle ait un enfant d'un autre homme.
Alors, ça n'a sûrement pas été simple, mais Henri a été très, très convenant, on va dire, puisque c'est lui qui déclare à l'état civil Jacqueline Bertha, en septembre 1908, dans le 17e arrondissement.
En 1911, elle rompt du coup avec Henri Bertha. Il y a une rupture qui a lieu.
Alors, en tout cas, il y a une distanciation du couple puisque, je dirais, à la fois, elle a eu Jacqueline, enfant adultérin avec son amant étudiant André Noël, donc ça pouvait aussi créer des distensions, une distanciation du couple Bertha. Et puis, il faut aussi identifier qu'en 1911, quand elle vient s'installer en février 1911, dans un foyer pour dames seules du 18e arrondissement, donc le quartier de Montmartre, au 37 rue Gênes Carrière, en fait, c'est aussi le contexte où il faut qu'elle bosse comme une étudiante en médecine très dure pour préparer son concours de l'internat. Donc si on resitue qu'elle était, un peu la maîtresse de maison des Bertha, l'assistante parfois médicale d'Henri Bertha, l'étudiante en médecine et l'externe des hôpitaux de Paris. Ça faisait beaucoup pour les études de médecine, ça faisait beaucoup pour préparer convenablement le concours de l'internat de 1912. Donc je pense que quand elle s'est installée de février 11 jusqu'à l'été 14, l'entrée en guerre, au 37 rue Eugène Carrière, c'était aussi, on peut le voir aussi comme la nécessité pour une étudiante en médecine de se consacrer pleinement à sa détermination et sa volonté de réussir en médecine.
Dans les services de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, le professeur Louis Brock et ses équipes développent une thérapie de la peau novatrice qu'on appelle la douche filiforme. Suzanne Perta va en affiner la pratique. Il s'agit d'un traitement par micro-jet qui permet de soulager les pruries, les acnés, les couperoses, les séborrhées, les lichens, les eczémas, les lupus. Toutes ces affections de la peau qui, à une époque où les antibiotiques n'existent pas encore, peuvent prendre des formes sévères, voire mortelles. Suzanne sera nommée responsable du service de la douche filiforme.
Le 19e siècle, c'est l'apparition de l'anesthésie, c'est l'apparition de l'asepsie, de l'antisepsie, et émerge concomitamment la chirurgie plastique, parce qu'en fait, elle devient possible sans être irréaliste. Sachant que, oui, il y avait une chose particulière, c'est que quand on opérer jusqu'alors, on mettait la vie des gens en danger. Mettre un bistouri dans la peau de quelqu'un, la première complication, c'était l'infection, et l'infection, c'était possiblement mortelle. Donc évidemment, on ne prenait pas ce risque, même pas pour de la réparation. Quand tout ça est devenu possible au cours du 19e siècle, les premières interventions esthétiques ont émergé. 1880, c'est la première publication d'une intervention esthétique sur les oreilles décollées. Et d'ailleurs, le chirurgien qui la publie, c'est assez sympathique, puisque la raison qu'il donne, la légitimation qu'il donne, la justification qu'il donne à cette intervention, c'est l'inconfort social du patient. Il dit, voilà, j'ai opéré ce jeune patient parce qu'il était sujet aux moqueries, et je lui ai donc sauvé son rapport social.
Et donc ça plaçait la chirurgie esthétique d'emblée dans la société, quoi.
D'emblée, en tout cas, la première publication est intéressante pour ça, parce que d'emblée, les chirurgiens ont quand même perçu cette fonction-là. Mais ça restait quand même des publications anecdotiques, etc. Mais à la fin du 19e siècle, on voit les premières publications sur les rhinoplasties esthétiques, même sur les abdominoplasties. Et Suzanne Noël a 19 ans quand la première publication surgit sur le lifting. Elle a 19 ans et elle ne peut pas ne pas avoir été imprégnée par cette espèce de révolution qui est un peu le symbole de la chirurgie du XXe siècle.
Comment elle rentre en contact avec la chirurgie plastique, Suzanne Noël ?
Alors, dès 1908, en fait, elle a l'occasion de voir Hippolyte Morestin mener des opérations. Alors, pas en tant qu'élève d'Hippolyte Morestin, elle ne l'a jamais eu comme professeur, mais André Noël a fait son premier stage d'externat chez Hippolyte Morestin. Et je pense que c'est effectivement par ce biais qu'elle a accès, ou même dans le cadre des études de médecine, que les étudiants ont accès aussi à pouvoir assister à des opérations, à des interventions. Et c'est Hippolyte Morestin qui est vraiment le premier pionnier de la chirurgie esthétique réparatrice. Et ça, c'est avant 14-18, hein, déjà ces aspects-là. Et elle, dans le service, ensuite dans le service, c'est à partir de 1911, dans le service du professeur Brock, où il repère sa grande dextérité manuelle. Il la trouve extrêmement intelligente et instruite. Il lui fait confiance. Et sous sa responsabilité, il autorise à mener de premières opérations. Alors, effectivement, nous sommes en dermatologie et il y a certaines expressions sur le visage, des kystes par exemple, des lupus qui peuvent se prêter à une petite chirurgie esthétique pour les retirer. Hein, c'est pour moi, je dirais, le lien qui fait que c'est plutôt en dermatologie que va naître progressivement la chirurgie esthétique.
Par Madame Morestin, dit par Madame Sarah Bernard. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blancs seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui sent soleil, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. comme le renouveau mettra nos cœurs en fête. Nous nous croirons encore de jeunes amoureux, et je te sourirai tout en courant dans la tête, et nous ferons un couple adorable de Dieu.
On va dire qu'il y a avant la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'après-guerre immédiate, c'est-à-dire les années 1920, et ensuite les années 30. Avant la Première Guerre mondiale, il y a très peu de personnes qui s'intéressent aux interventions esthétiques. Et les chirurgiens américains, oui, on les appelle les beauty doctors, mais ils ont très mauvaise réputation. Hein. C'est un mélange de fascination et de charlatanisme. En fait, il y a quelque chose de très ambivalent dans l'image qu'on a des beauty doctors. Mais il se trouve que Suzanne Noël, elle les a fréquentés, notamment par l'intermédiaire de Sarah Bernhardt, en fait. Sarah Bernhardt, qu'elle dit avoir opéré en 1912, donc avant la Première Guerre mondiale. Et un des beauty doctors les plus célèbres, c'est Miller, qui a publié, pour le coup, le premier livre de chirurgie esthétique en 1907. Donc on voit Miller, qui est très connu, très controversé, qui publie le premier livre de technique de chirurgie esthétique. Suzanne Noël, qui le connaît de manière directe ou indirecte, ça je ne sais pas précisément, mais en tout cas, elle dit avoir opéré Sarah Bernhardt, qui venait d'être opérée par Miller. Donc il y a quelque chose comme ça. Et quand on regarde de plus près, ceux qui disent s'intéresser aux interventions esthétiques avant la Première Guerre mondiale, il y a Suzanne Noël, Maurestin et Julien Bourguet, c'est-à-dire trois médecins, parce que Suzanne Noël était chirurgien, un peu chirurgien à l'époque, elle ne l'est pas encore, en tout cas deux chirurgiens et Suzanne Noël, qui ne l'est pas encore, s'intéressent aux interventions esthétiques avant la Première Guerre mondiale.
En 1912, une de nos grandes artistes revint d'Amérique après une triomphale tournée et tous les journaux racontèrent comment, à la suite d'une opération pratiquée dans le cuir chevelu, elle avait retrouvé une jeunesse surprenante. Ce récit me frappa beaucoup et sur mon propre visage, j'essayais avec les doigts de pincer la peau en divers endroits et en différents sens pour en rectifier les plis. Je fus étonnée des résultats qu'on pouvait obtenir. Et je me mis à étudier la question très sérieusement, faisant des patrons, les appliquant, pinçant ensuite les téguments avec des pinces en bois pour me rendre compte du résultat. Je fis aussi des expériences concluantes sur des lapins vivants, préalablement anesthésiés, la peau du lapin étant d'une finesse et d'une élasticité assez semblables à celle de la peau humaine. Ainsi renseignée, j'allais trouver l'artiste en question. Elle me reçut d'une façon charmante, m'expliqua ce qui lui avait été fait aux États-Unis et qui ne ressemblait en rien à ce que je désirais réaliser. Il lui avait été en effet prélevé dans le cuir chevelu une simple bande allant d'une oreille à l'autre. Si le résultat avait été assez efficace pour le haut de la face, en atténuant les rides du front et en effaçant la patte d'oie, il n'avait en rien modifié le bas du visage. Notre vedette fut très séduite par mes explications. Et je dois dire qu'elle fut une de mes premières clientes, lorsque j'eus mis au point tout ce dont je lui avais parlé.
Suzanne Noël, la chirurgie esthétique, son rôle social, 1926.
Elle propose à Sarah Bernhardt son savoir-faire. Et là, ce qui est pour moi le plus exceptionnel, c'est que Sarah Bernhardt fait confiance et prête son visage à cette toute jeune externe, à l'époque, à cette toute jeune externe qui a commencé des premiers travaux comme ça sous la responsabilité du professeur Brock, mais était vraiment une débutante. Et Sarah Bernhardt fait confiance à cette jeune femme, croit en elle et l'autorise à intervenir. Alors Suzanne Noël n'évoquera que c'est Sarah Bernhardt que bien après son décès de 1923 et des fois dans des choses qu'elle a rédigées ou des interviews qu'elle a données dans les années 40-50.
Suzanne Noël, elle est très connue pour avoir fait des liftings au niveau de la nuque. C'est-à-dire qu'elle enlevait un petit morceau de peau au niveau de la nuque. Et donc, si vous faites le test, hein, vous tirez un petit peu sur la peau, bah, ça fait un lifting du cou. Alors aujourd'hui, on a des techniques un petit peu plus sophistiquées, mais c'est très malin. Mais il faut savoir d'où ça vient, cette invention du lifting du début du siècle. C'est que les femmes, quand elles sortaient au théâtre, elles avaient un bijou qui était des pinces en argent qu'elles mettaient sous leur chignon au niveau de la nuque pour tirer la peau du cou en arrière quand elles sortaient au théâtre. Et donc en fait, cette intervention ne fait que reprendre ce bijou qui était un bijou d'embellissement du cou.
La Première Guerre mondiale éclate dans l'été 1914. Tout au long du conflit, Suzanne ne suspend pas son activité. Elle soigne des blessés sur le front de l'Aisne, dans sa région natale de l'Est français, à Soissons, à Braisnes et à Fismes. Revenue à Paris, Suzanne Pertat retrouve son poste d'interne à l'hôpital Saint-Louis. Les circonstances exceptionnelles de la guerre l'autorisent à exercer la médecine sans avoir soutenu sa thèse. Entre les murs de l'hôpital, elle voit de près les blessés de la Grande Guerre.
Donc un service des blessés militaires est créé à l'hôpital Saint-Louis. Et on sait que qu'à peu près 11 à 14% des blessés étaient des blessés mutilés de la face. Donc on peut estimer qu'à l'hôpital Saint-Louis, il y a eu quasiment 1500 blessés et mutilés de la face qui ont été accueillis. Suzanne Noël, donc, disait « J'étais dans un service où les médecins s'efforçaient de redonner aux soldats une fonction vitale, respirer, mâcher, avaler, entendre. Moi, mon rôle était de leur redonner un visage humain acceptable pour leur famille. »
Il n'a plus de nez. À la place, un trou qui saigne. Avec lui, un autre dont la mâchoire inférieure vient de sauter. Est-il possible qu'une seule balle ait fait cela ? La moitié inférieure du visage n'est plus qu'un morceau de chair rouge, molle, pendante, d'où le sang mêlé à la salive coule en filets visqueux. Et ce visage a deux yeux bleus d'enfant, qui arrête sur moi un lourd, un intolérable regard de détresse et de stupeur muette. Cela me bouleverse, pitié aux larmes, tristesse, puis colère démesurée contre ceux qui nous font la guerre, ceux par qui tout ce sang coule, ceux qui massacrent et mutilent. Et nous voyons des visages dont les yeux seulement apparaissent, fiévreux et inquiets, tout le reste deviné, mutilé sous les bandes de toile qui dissimulent. Des visages borgnes, barrés de pansements obliques, qui laissent couler le sang le long de la joue et dans les poils de barbe.
Maurice, je ne vois la mort de près.
Et la Première Guerre mondiale va redistribuer les cartes, en fait. Il y a un chirurgien qui écrit « Nous avons opéré pendant la Première Guerre mondiale autant de défiguration, de mutilation faciale qu'en 100 ans de pratique. » Faut imaginer l'ampleur de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que les chirurgiens ont été massivement confrontés aux mutilations de la face. Et ça a créé, à ce moment-là, deux choses. Déjà, ça a été le laboratoire du progrès. Il y a eu des innovations techniques qui n'ont pas pu avoir lieu avant, devant en fait, la masse de blessés à soigner. Et en même temps, parallèlement, la défiguration, c'est quelque chose de très particulier. Et ça a probablement, même très sûrement, mené à une réflexion nouvelle sur l'identité, le rapport du visage dans l'altérité, le rapport à l'autre et le rôle social de l'apparence. Qui, jusqu'alors, même s'il avait été évoqué, comme je disais tout à l'heure, dans la première publication de chirurgie esthétique, qui jusqu'alors n'est pas réellement discuté, en tout cas pas dans le monde médical. Donc là, il y a une prise de conscience qui est massive. Et Suzanne Noël, avec sa sensibilité esthétique, comme Maurestin, qui datait de l'avant-guerre, elle participe à la prise en charge des blessés de la face pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a été une conscience de à quel point, en fait, le visage, c'est le rapport à l'autre. Et que quand le visage est abîmé, il y a une fonction qui est abîmée. Que l'esthétique n'est pas juste quelque chose de fantaisiste et superficiel. L'esthétique est une fonction. Et notamment une fonction sociale. Donc quand elle écrit en 1926 la chirurgie esthétique, son rôle social, elle s'inscrit en fait dans cette pensée. Bien sûr, elle en a conscience, elle a cette intelligence de voir et de dire, mais quelque chose qui était vraiment totalement de son époque.
C'est ça, où la question de la beauté n'est pas pure, quoi. C'est la beauté en tant que fonction sociale aussi.
Exactement. Elle l'interroge d'ailleurs en ce sens. Elle dit la beauté, pour la beauté, ça veut rien dire. La beauté, c'est une fonction sociale. Et alors elle va avoir, c'est là où c'est encore plus, enfin c'est ce qui est marrant et fascinant avec Suzanne Noël, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en fait, hein, et il y a son engagement féministe aussi qui vient se mettre dans ça, parce qu'elle va tout de suite prendre conscience qu'en fait les femmes sont peut-être plus encore confrontées que les, bien sûr ce sont des soldats mutilés et eux aussi l'apparence n'est pas anodine. Mais elle va mettre en avant que bah, pour une femme, en dehors de toute mutilation faciale, l'apparence n'est pas du tout anodin. Et elle le dit dans son livre, hein, une femme qui vieillissante ou qui n'a plus les attraits de la jeunesse, elle va avoir des problèmes pour trouver du travail. Donc elle le voit vraiment comme une façon de solutionner, au-delà de la beauté, un problème social, quoi.
Dès septembre 1914, Henri Perta, le mari de Suzanne, s'engage comme médecin volontaire sur le front. En 1915, il est en Belgique. Il participe à un périlleux test de gaz chloré en milieu confiné. Tout à coup, un accident survient. L'un des accessoires de son masque, une canule ou un pince-nez, se brise. Sans protection, Henri respire alors du gaz chloré, poison mortel à diffusion lente. Le médecin connaît ensuite des complications pulmonaires, des séjours à l'hôpital et une longue agonie. Cet accident du front de Belgique sera la cause de sa mort, 3 ans plus tard, en juin 1918.
Dès 1918, la vie a paru comme devant devenir de plus en plus dure. Or, chacun sait combien il est difficile pour un être qui travaille de trouver un emploi lorsqu'il est marqué par l'âge. À part quelques exceptions, partout il faut de la jeunesse et de la beauté. Au début, la chirurgie esthétique apparut au public, pardonnez-moi l'expression, comme une véritable galéjade. Beaucoup refusèrent d'y croire. Puis les plus déshérités, les plus désespérés, se hasardèrent et obtinrent un résultat certain, leur permettant de trouver du travail. Ils conseillèrent alors à leurs amis d'en essayer. L'idée puis la réalisation firent tache d'huile. Les cas intéressants affluèrent.
En 1919, un an après la mort d'Henri, Suzanne épouse André, son amant de l'école de médecine. Suzanne Perta devient alors Suzanne Noël. Le couple déménage rue Marbeuf, non loin des Champs-Élysées, avec Jacqueline, leur fille. Dans le grand appartement, Suzanne Noël installe son cabinet de dermatologie, où elle expérimente des petites interventions en chirurgie esthétique.
Elle va développer des techniques extrêmement minutieuses.
Marianne Prévost, chirurgienne esthétique.
De traitement des disgrâces essentiellement du visage à ce moment-là, sous anesthésie locale, et elle explique que la technique déjà de l'anesthésie locale elle-même, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bleu, pour faire en sorte que les personnes puissent sortir le soir même sans que rien ne soit visible de l'extérieur. Elle explique la prise en charge, la façon dont la personne va s'allonger. Et puis, au niveau de la technique elle-même, elle va mettre au point des détails techniques qui sont en fait extrêmement importants, comme le fait de décoller, de détacher le lobe de l'oreille quand on fait une résection cutanée en dessous du lobe de l'oreille pour avoir un mini lifting, un mini effet lifting au niveau du cou, de manière à ce que le lobe de l'oreille ne soit pas ensuite tracté vers le bas. Elle explique aussi d'autres petites techniques vraiment très précises, la façon dont elle fait les points de suture, quel fil elle va utiliser, comment est-ce qu'elle fait ses pansements. Donc elle fait des pansements qui sont cousus de manière à ce qu'ils puissent être recouverts par les cheveux et que le soir même, personne ne puisse s'apercevoir qu'il y a eu une intervention chirurgicale. Mais elle, ce qu'elle a de particulier, c'est vraiment qu'elle est d'une précision extrême, aussi bien sur l'aspect psychologique des personnes qu'elle va recevoir, sur leur demande, la façon d'évaluer leur demande, de leur poser la question et puis ensuite de la traiter.
Mathieu Olivetto, chirurgien esthétique.
Un certain nombre de techniques qu'elle a utilisées étaient déjà décrites. Après, je pense qu'elle a beaucoup échangé avec certains chirurgiens de l'époque, très certainement un chirurgien qui s'appelle Conrad Miller. Plus tard, elle contactera directement ce chirurgien aux États-Unis. Elle aura des échanges avec lui sur des principes techniques de chirurgie et durant même son externat, donc avant même l'internat de dermatologie qu'elle va faire, elle commence à réfléchir un certain nombre de techniques chirurgicales sans les appliquer, mais en les mettant sur papier. Là où elle apporte beaucoup d'innovations, c'est sur, on va dire, tout le périopératoire, toute son installation du patient, tous les soins qu'elle va prodiguer, le fait de, par exemple, dissimuler les pansements, voire teindre les pansements de la couleur de la peau ou de la couleur des cheveux, avoir une forme de clientélisme qui va, par exemple, autoriser les patientes à fumer pendant l'intervention. Elle va leur offrir une tasse de thé entre chaque étape chirurgicale. Il y a tout ce côté très proche des patients qui est son raffinement à elle et qui est la véritable nouveauté à une époque où les praticiens avaient une approche peut-être un peu plus paternaliste du patient qui devait se présenter tel jour à telle heure et ne pas dire grand-chose de plus. Là, elle va même jusqu'à demander aux patients là où est-ce qu'ils veulent leur incision. Ils vont décider eux-mêmes de quelle localisation de peau il va falloir retirer. Donc elle a vraiment un rapport très moderne, puisque aujourd'hui c'est un petit peu plus comme ça qu'on fonctionne. Mais il y a 100 ans, je pense qu'elle était complètement unique à travailler comme ça et à laisser vraiment le patient décider.
Non seulement c'est la chirurgie esthétique, mais c'est aussi la chirurgie ambulatoire, c'est aussi les petites interventions sous anesthésie locale. Tout ça, c'est en fait extrêmement moderne. C'est la vision d'aujourd'hui, en fait. Hein.
En quoi ?
L'ambulatoire, le fait de faire des petites interventions où on retrouve son activité très très vite, sans éviction sociale, petits coups d'éclat, sans transformation majeure. C'est une vision moderne de la chirurgie esthétique, mais c'est peut-être une vision féminine aussi. La chirurgie a été quand même longtemps essentiellement masculine. Elle est la complexité. Suzanne Noël, c'est une des premières femmes à faire de la chirurgie. Elle fait quoi, la chirurgie esthétique? Enfin, c'est génial. Je trouve ça génial. C'est étonnant, quoi. Elle a réussi à coupler l'aspect scientifique, l'aspect, la sensibilité de son époque, sa vie et son œuvre sont le témoin de quelque chose qui la dépasse de beaucoup.
Une femme médecin serbe fut opérée par moi un soir à 6 heures, en toilette de soirée, puisqu'elle dînait à l'ambassade à 8 heures. Elle eut un succès éblouissant, tous les invités qui la connaissaient attribuant sa plus parfaite beauté à l'admirable robe qu'elle portait. Le lendemain, elle partait pour Vienne, d'où son mari, médecin également, me télégraphia quelques jours après. Fil enlevé par moi, résultat merveilleux, reconnaissance absolue. Habituellement, pour que le changement puisse passer tout à fait inaperçu, je conseille une petite modification dans la coiffure ou l'achat d'un nouveau chapeau, ceci suffisant à expliquer l'amélioration survenue.
Je suis belle, je me trouve très belle. Je suis moche, je me trouve trop moche. Je suis belle, je me trouve très belle. Je suis moche, je me trouve trop moche. Je suis belle, je me trouve très belle. Je suis moche, je me trouve trop moche.
La chirurgie esthétique, c'est ce qui se voit le moins, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez, c'est que c'est raté. C'est-à-dire la chirurgie esthétique, ça doit être la chirurgie de l'invisible. Ça doit être la chirurgie qui ne se voit pas ou simplement il doit y avoir un tour de passe-passe. Et puis c'est la chirurgie du secret aussi. Et ça, elle le dit dans son livre. Ils sont plusieurs à le dire. C'est la chirurgie du secret. Les femmes, en tout cas en France, n'en parlent pas. Je parle dans les années 20, hein, puisqu'il n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, ou un peu, mais pas tant. C'est quelque chose, c'est le rapport à l'intime. Et si ça se voit, c'est qu'il y a quelque chose de raté. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie de l'apparence qui doit être invisible, paradoxalement.
Est-ce que ça colle à la peau de la chirurgie esthétique, l'idée que ce soit quelque chose de superficiel ?
Bien sûr, c'est une chirurgie superficielle, mais au sens où Paul Valéry l'entend, c'est qu'il n'y a plus, il n'y a rien de plus profond que la peau. C'est-à-dire, dès qu'on touche à la peau, évidemment, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'identité, donc de la part la plus profonde de nous-mêmes. Quoi.
Mais ça reste souvent inaperçu.
C'est invisible, si c'est bien fait, d'un point de vue social, c'est-à-dire, aujourd'hui encore, un beau résultat, c'est on a bonne mine, on a un coup d'éclat, mais on n'est pas stigmatisé. C'est-à-dire que c'est là où le bât blesse dans la chirurgie esthétique, c'est que les gens ne voient que les ratés. Quand c'est beau, ça ne se voit pas. Quand ça ne se voit pas, on n'en discute pas. Donc on ne sait pas de quoi elle est capable. Donc c'est là toute l'ambivalence de la chirurgie, aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'on ne peut voir que ce qui est raté. Donc on ne peut discuter que de ce qui n'est pas joli. Mais ce qui est joli, et bien sûr, une femme qui a un beau résultat ne va pas dire « Ah bah oui, c'est mon lifting », elle va dire « Oui, je sais. C'est ma crème de jour. » C'est vrai. Donc c'est ça qui est rigolo.
Le 6 janvier 1922, un événement tragique s'abat sur le couple Noël. Leur fille, Jacqueline, meurt en quelques heures d'une grippe maligne à l'âge de 13 ans. André Noël plonge alors dans une dépression profonde, trouble que l'on appelait à l'époque la neurasthénie. 2 ans plus tard, le 5 août 1924, alors que le couple traverse Paris en taxi, André quitte brusquement le véhicule et court vers le pont au change. Il escalade le parapet et se précipite dans la Seine, sous les yeux de sa femme. Après avoir nagé quelques instants, Henri disparaît sous l'eau et meurt noyé. Personne ne croyait au suicide, écrit Suzanne Noël dans un récit conservé aujourd'hui à la bibliothèque Marguerite Durand, à Paris. Elle y décrit méticuleusement l'étrange geste suicidaire d'André. Elle a milité depuis pour l'installation de bouées sur les berges de Seine et obtenu qu'on les installe. Malgré ce nouvel épisode tragique, le docteur Suzanne Noël continue à œuvrer pour sa discipline naissante. En 1926, elle publie son premier ouvrage, La chirurgie esthétique, son rôle social.
Alors ce premier ouvrage, il a eu un très grand retentissement, hein, et ça lui a donné une grande notoriété. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi généré, à la demande de ministères d'ailleurs, hein, dont les affaires étrangères, le fait qu'elle puisse faire des conférences à l'international sur la chirurgie esthétique et son rôle social. Hein, ça a été, je vous ai dit, de 1926 à 36, elle a parcouru plusieurs fois plein de pays de la planète, hein, de continents. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, etc. L'Europe, l'Asie. Et donc cet ouvrage, c'est un ouvrage finalement grand public d'une certaine façon. Et d'ailleurs, il est destiné à pas uniquement au monde médical, il est destiné vraiment au grand. Donc c'est un ouvrage qui a fait levier pour justement faire avancer l'idée de la chirurgie esthétique pure et non pas suite à de la chirurgie reconstructrice ou réparatrice. Voilà, donc elle a largement œuvré, je dirais, à faire connaître cette nouvelle discipline grâce à cet ouvrage.
La maladie, l'amaigrissement, surtout l'amaigrissement rapide, sont des facteurs importants et fréquents d'affaissement des traits. Ce qui fait que pour répondre à cette question, à quel âge doit-on se faire opérer ? Je suis obligée de renvoyer chaque candidat à son miroir en lui souhaitant d'en trouver un sincère et peu indulgent. J'ai vu de pauvres déshérités passer du jour au lendemain de la neurasthénie la plus aiguë à l'euphorie la plus complète.
Alors elle décrit très bien dans son livre qui est sorti en 1926 aux éditions Masson, elle décrit très bien qu'elle a une patientèle variée et elle a en particulier, par exemple, une femme qui s'est fait renvoyer par son patron parce qu'elle a l'air trop triste et trop vieille pour pouvoir faire le service à table dans un restaurant. Et elle décrit aussi un homme qui n'arrive pas à trouver de travail parce qu'il a d'énormes poches sous les yeux et que s'il n'arrive pas à décrocher un travail parce qu'il a l'air trop vieux, il donne l'impression qu'on va pas pouvoir compter sur lui. Et puis elle explique que suite à l'intervention qu'elle a pu réaliser sur l'un comme sur l'autre, ils ont pu reprendre une activité professionnelle qui à l'époque était quand même assez obligatoire puisque il faut se rappeler que le traitement social, aussi bien du chômage que de la vieillesse, n'était pas tout à fait complet.
Et elle a toujours prôné, dès 1926, même quand elle republie un ouvrage complété sur la chirurgie esthétique en 1931 et en 1933 également, qui est plus orientée vers un public du monde médical, qui est plus professionnel avec de nombreux croquis. Bah, sa conclusion générale, c'est revenir sur l'éthique de la chirurgie esthétique et son rôle social. Elle a fait des conférences à travers le monde dès 1926 jusqu'en principalement 1936. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Et dans ces conférences où elle était accueillie dans des instituts français, des ambassades, des universités à l'étranger, etc., c'était toujours des conférences sur la chirurgie esthétique et son rôle social. Donc c'est vraiment la vision de la chirurgie esthétique et l'éthique de Suzanne Noël. Mais de nos jours, je pourrais dire la chirurgie esthétique... Alors j'espère que probablement, dans le monde de la sécurité sociale, de la mutualité, il y a encore des facilités, bien sûr, pour les personnes qui ont besoin de reconstruction, qui ont besoin de la reconstruction mammaire, par exemple. Enfin, donc ça, de ce côté-là, c'est, je pense, il doit y avoir un soutien, même financier, pour la prise en charge de ces interventions. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est plus l'autre courant lucratif et un peu de luxe, on va dire, qui est plutôt la dominante de nos jours.
C'est une chirurgie qui peut paraître facile, mais elle est pleine d'embûches. Elle nécessite une sûreté de technique absolue, une grande justesse de coup d'œil et surtout un goût absolument impeccable, ce qui n'est pas une chose si commune. Il est donc nécessaire que ceux qui feront cette chirurgie sans guide et sans longue préparation préalable soient d'une extrême circonspection s'ils ne veulent pas courir à des désastres.
Elle dit que c'est une chirurgie faussement facile et semée d'embûches. Et c'est vrai, et d'ailleurs dans d'autres articles scientifiques, les chirurgiens se moquent de cette phrase en disant « semée d'embûches ». Ça, de toute façon, tout leur est insupportable dans ce livre. Donc c'est ça. Ouais.
Vous avez consulté notamment les réactions qui ont pu avoir lieu, enfin que le travail de Suzanne Noël a pu susciter auprès de la communauté médicale de l'époque. Comment il a été reçu le travail de Suzanne Noël ?
Au début des années 20, il y a une hostilité face à ceux qui pratiquent les interventions esthétiques. Moi, j'ai retrouvé seulement deux chirurgiens qui avaient une pratique exclusive de la chirurgie esthétique après la Première Guerre mondiale. Enfin, je parle des années 20. C'est Raymond Passeau et Suzanne Noël. Les autres chirurgiens pratiquaient probablement des interventions esthétiques, mais c'était occasionnel au sein de leur pratique générale. En 1920, le début des années 20, il y a une hostilité pour ceux qui pratiquent les interventions esthétiques. Et Suzanne Noël, bien sûr, elle arrive dans ce climat-là. Ça, c'est la première chose. C'est une femme. Probablement, ça n'a pas beaucoup aidé. Et en plus, elle n'est pas chirurgien. Elle est dermatologue. On parle à l'époque de dermatologiste. Et ça aussi, ça ne va pas aider à faire apprécier son travail à sa juste valeur. Et il va y avoir une vaste polémique à la suite de la sortie de son livre en 1926, avec des attaques et des publications dans plusieurs revues médicales qui l'accusent de plein de choses, en fait.
Il l'accuse de quoi ?
Mais qui l'accuse de... truquer ses avant-après, c'est-à-dire que ce sont en fait des photomontages pour améliorer les résultats, certes, mais pas seulement. Hein. On l'accuse aussi de ne pas opérer du tout, en fait. De dire que, regardez ce patient, en fait, les traces de sang ont été peintes au pinceau, on a gratté les négatifs pour rajouter ou enlever telle ou telle lésion, et il y a des articles entiers qui décrivent les trucages des photos de Suzanne Noël. Voilà, donc ça c'est assez intéressant et ça va tellement loin qu'elle va aller presque jusqu'à... Donc elle écrit plusieurs lettres pour se défendre, pour dire mais attendez, là c'est de la diffamation. Elle le dit en plus avec beaucoup de simplicité, c'est assez émouvant en disant mais j'ai plus d'une quinzaine de médecins et de chirurgiens qui viennent voir chaque année mon travail et qui assistent à mes interventions et qui voient les avant-après. pourquoi cette polémique ? Venez me voir et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Parce qu'on l'accuse de ne pas opérer, en fait. On dit ce patient n'a jamais été opéré.
C'est à ce moment-là qu'elle va vraiment s'engager avec les sœurs optimistes. Et donc, elle va s'engager à plein dans son action féministe, essentiellement pour essayer de développer des réseaux professionnels entre femmes, de soutien et de soutien financier et professionnel entre femmes de par le monde entier.
Donc c'est un mouvement qui s'est créé pour la première fois, un club à Oakland en Californie. Et les premières femmes qui se sont réunies sous l'intitulé Sœurs optimistes. Et puis elle a été identifiée un peu comme une personnalité phare dès 1923 en France, en Europe. Même si elle n'avait pas encore la notoriété de ses conférences ou de son premier ouvrage de 1926. Et effectivement, en octobre 1924, aboutit la création, et donc Suzanne Noël est une des membres fondatrices et en sera une des deux vice-présidentes pour le premier comité de 1924-1925. Et puis plus tard, elle sera trois fois présidente du club de Paris qui s'appelle aujourd'hui le Club Paris Fondateur. Et donc elle crée en 1930 la Fédération européenne continentale du soroptimisme international. Et de nos jours, il y a toujours une bourse Suzanne Noël qui est portée par le Soroptimisme international d'Europe pour les femmes médecins qui souhaiteraient se spécialiser en chirurgie esthétique, qui peuvent bénéficier d'une bourse Suzanne Noël, encore de nos jours, portée par le Soroptimisme international d'Europe.
Mentalis is fit that wives should submit to their husbands submissively weakly. Though whatever they say, their wives should obey, unquestioning, stupidly, meekly. Our husbands would make us their own dictum take, without ever a wherefore or why for it. But I don't and I can't, and I won't and I shan't, no, I will speak my mind if I die for it.
Le Club Soroptimiste français, fondé par Suzanne Noël, fonctionne comme un réseau d'entraide féminine. Elle lance un appel à plusieurs femmes qui travaillent dans différentes sphères de la société. Les premières réunions de cette nouvelle association rassemblent des femmes de divers horizons. Anna de Noailles, poétesse. Marguerite Durand, journaliste. Nadia Boulanger, musicienne. Louise Weiss, femme politique. Suzanne Noël œuvre toute sa vie au déploiement des clubs soroptimistes dans le monde. Elle écrira plus tard cette adresse à ses sœurs. Soyez le cœur battant du monde, le rayonnement de vos pays, les inspiratrices. Soyez les Antigones des hommes. Dans cette période de l'entre-deux-guerres, Suzanne Noël s'engage aussi pour le droit de vote des femmes.
Alors effectivement, Suzanne Noël s'est engagée une trentaine d'années jusqu'à, je dirais tout simplement, l'obtention en France du droit de vote en 1944 et les premiers scrutins de 1945. Mais dès après-guerre, elle s'engage, notamment elle participe à l'Union française pour le suffrage et l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Elle est membre de son comité directeur avec des personnes comme Marguerite Durand, par exemple. Et je souhaite resituer que une des premières féministes et suffragistes. Suffragiste parce que suffragette, c'était péjoratif aux yeux de leurs contemporains. Hein. C'est une façon de se moquer d'elle. Hein. Donc suffragiste. Alors par exemple, Suzanne Noël a écrit donc en 1924. Il faut penser qu'en 1924, les femmes n'avaient encore aucun droit politique, aucune liberté personnelle, et celle qui poussait à toutes ces libérations était l'objet de la risée générale et appelée suffragette. J'étais une des plus visées, portant sur mon chapeau un ruban sur lequel était imprimé en lettres dorées « Je veux voter ». Les anglo-saxonnes, États-Unis, Angleterre, Irlande, Australie, ont obtenu grosso modo le droit de vote après 14-18 comme une évidence entre 1918 et 1920. En France, nous, on a toujours des assemblées qui bloquent, et la dernière qui bloque, c'est le Sénat, encore en 1932 et au-delà. Donc, en 31, à l'Union française pour le suffrage des femmes, il décide de relancer une campagne de grève de l'impôt pour les femmes qui travaillent et qui estiment qu'elles n'ont pas à payer d'impôts puisque civiquement elles n'ont pas de poids, elles ne peuvent pas décider de l'affectation des dépenses publiques compte tenu qu'elles ne sont pas électrices. Donc c'est vraiment Suzanne Noël qui est le fer de lance à la demande du comité directeur de l'Union française pour l'Alliance des femmes. La grève de l'impôt 1931, c'est vraiment elle qui est mise en avant pour convaincre et pour, au plan pratique, organiser la grève de l'impôt des femmes volontaires.
Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Mme Louise Weiss envahirent le terrain. Mme Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend.
En septembre 1939, Suzanne Noël a 61 ans. Elle s'installe dès le début de la guerre dans le Loir-et-Cher. Là-bas, elle s'engage pour l'aide médicale gratuite auprès des réfugiés et des nécessiteux. D'autres sources insistent sur un engagement plus héroïque encore. Un article du journal Elle, publié dans l'après-guerre, en 1947, écrit par exemple « Pendant l'occupation, sa salle d'opération a été le témoin de bien des métamorphoses. Résistants, maquisards, juifs traqués par la Gestapo, sortaient de chez elle suffisamment transformés pour dérouter le plus physionomiste des nazis. Suzanne Noël aurait donc poursuivi son travail de chirurgie esthétique, mais autrement. »
Tout de suite après-guerre, notamment, on la voit dans des photos de magazines, on la voit opérer, notamment à l'âge de 75 ans, jusqu'en 1953, à la clinique des Bluets, où elle opère des enfants, notamment de bec de lièvre, de d'oreilles décollées, de malformations au visage, dans le cadre de cette clinique mutualiste de la CGT Métallurgie, quoi. Voilà, donc Suzanne Noël pour les chirurgies esthétiques, entre guillemets, lourdes, sur l'ensemble du corps, à opérer dans des cliniques mutualistes. Ce qui lui permettait aussi, je dirais, d'être ouverte à des chirurgies, parfois même gracieusement, pour des ouvrières, des travailleuses, des employés, des personnes qui n'avaient pas de moyens. Et elle n'hésitait pas à opérer gratuitement et pour les personnes très aisées qu'elle pouvait avoir dans sa patientèle ou sa clientèle, de leur faire payer plus cher pour se permettre... voilà, je me suis permis une fois de dire, c'était la Robin des Bois de la chirurgie esthétique.
C'était Suzanne Noël, chirurgienne esthétique et sociale, avec Thérèse Awada, Marianne Prévost, François Denoncin, Mathieu Olivetto. Merci à la bibliothèque de l'École de médecine, à la bibliothèque Marguerite Durand de la ville de Paris et à Christine Daguin, membre de l'association Soroptimiste. Lecture, Atis Ozer. Prise de son, Gilles Gallinaro, Bruno Mourlan et Minetta Diawara. Mixage, Étienne Collin. Documentation, Annie Signoret. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Romain de Béguelière, réalisé par Gaël Gillon.